Fleur de sel, l'hebdo de l'écologie intégrale, une émission qui parle de la sauvegarde de la maison commune.
Vous êtes le sel de la terre.
Fleur de sel, une émission pour répondre à l'appel du pape François à la conversion écologique.
Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on ?
Fleur de sel, une émission proposée par le groupe Parole de chrétiens sur l'écologie.
Bonjour, chers auditeurs de Fleur de sel. Et bonjour, Olivier.
Bonjour, Bernard.
Olivier, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu. Quel est le sujet du jour ?
Oui, effectivement, je me suis absenté des ondes, mais je suis bien content d'être là. Je viens vous parler d'un livre qui n'est pas franchement récent, mais dont le message me semble intéressant dans la mesure où il permet d'enrichir notre vision de l'écologie intégrale. Il s'agit du livre « Les quatre fléaux » de Lanza del Vasto, publié aux éditions de Noël en 1959, puis Le Rocher en 1993.
Lanza del Vasto, ce nom me dit quelque chose. Fleur de sel en a parlé, déjà, non ?
C'est exact. Pour resituer, c'est cet homme du XXe siècle qui, suite à un voyage en Inde auprès de Gandhi, est rentré en France pour fonder des petits lieux de vie simples, communautaires et spirituels. Ça vous parle ?
Ah oui, tout à fait. En entendant le titre, une question me vient spontanément. Ces quatre fléaux, quels sont-ils ?
Alors, avec ce livre, Lanza a voulu prendre du recul sur le monde et déterminer quels étaient les grands rouages universels et atemporels qui mènent l'humanité de chaos en chaos, on pourrait dire. Et il en ressort effectivement quatre fléaux, misère, servitude, guerre et sédition. Partant de là, on s'attend à ce que le livre décrive par le menu chacun de ces fléaux.
Et ?
Eh bien non, ça aurait été trop simple. Non, on trouve cinq chapitres, aux titres parfois mystérieux, divisés chacun en un grand nombre d'articles qui se succèdent sans hiérarchie. Alors c'est magnifiquement écrit, mais un peu compliqué à suivre. Mais j'ai bien travaillé, et je peux vous le présenter au moins tel que je l'ai compris.
Ah, alors qu'avez-vous tiré de ce livre ?
Alors une articulation, pour commencer. On peut dégager trois parties. La première, les sources des problèmes du monde. La deuxième, la réaction habituelle des hommes aux problèmes du monde. Et enfin, une réaction souhaitable aux problèmes du monde. Pour aller à l'essentiel, pour Lanza, les problèmes du monde viennent du péché originel, de la connaissance du bien et du mal. Le péché, écrit-il, c'est d'avoir tiré à soi et dégradé la connaissance pour la jouissance et le profit. Ou encore, c'est regarder les autres comme de bons moyens de parvenir à ses propres fins. Il invente cette scène. Dieu dit au coupable Adam, « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » Mais les fils d'Adam ricanèrent. « Nous trouverons moyen de manger notre pain à la sueur du front de quelqu'un d'autre. »
Jusque-là, je vois bien de quoi il s'agit. Rien de très nouveau.
Oui, mais il tire sur ce même fil et le déroule plus en profondeur, là où nous n'imaginons généralement pas de trouver le mal. Il critique les relations gagnant-gagnant, le contrat, dans lesquels finalement la recherche du bien de l'autre n'est que feinte. Il écrit « Gagne à ce jeu l'homme assez intelligent pour considérer le profit de l'autre non comme un inévitable inconvénient, mais comme l'amorce d'un avantage à plus longue échéance. » Les questions qu'il pose expriment bien ce qu'il dénonce. Comment cohabiter sans s'aimer et cependant sans se détruire ? Ou encore, comment exploiter le prochain sans l'épuiser ?
On sent qu'il veut mettre en lumière un certain cynisme.
Effectivement, le cynisme des puissants, le cynisme de la loi des puissants. Ce cynisme sera dénoncé tout au long de l'ouvrage. On retrouve un message assez proche des plus belles colères de l'abbé Pierre d'ailleurs. Il détaille ensuite les implications de ce péché originel dans différents domaines. On peut citer entre autres la justice. Il estime « Les lois sont les clés et les leviers du pouvoir et de la richesse ». Celui qui sait les manier est au-dessus du blâme. Il tient le couteau par le manche. L'argent, qui est pour lui la manière de s'emparer des choses en passant par les hommes, et finalement de s'emparer des hommes en passant par les choses. Au sujet de la possession, il extrapole la formule de Proudhon en assénant « La possession, c'est le meurtre, car chacun doit défendre ses biens ». L'économie, dans son ensemble et ses diverses déclinaisons, le capitalisme, le marxisme, le communisme. La science, pour laquelle il invente une maxime en concurrence avec le Christ, « La vérité qui vous libérera c'est de connaître les forces de la nature et de vous en servir. La technologie pour laquelle il reprend la même méthode. L'ancien Messie vous leurrait d'un rêve de paradis dans l'autre monde, mais je suis en état de vous fournir le paradis dans ce monde-ci. Il vous prêchait la pauvreté, et moi je vous assure l'abondance. L'accélération. Quand toute une société s'épuise à tourner en rond, de plus en plus vite, à moudre le vide, à se vider de sa substance pour se transformer en vitesse, et se met à célébrer sa fièvre comme un signe de santé, c'est qu'elle entre en folie et se précipite à l'abîme. La vacuité. Pourvu qu'on arrive. Où ? Plus loin. Mais le but. Encore plus loin. Le but final. Plus loin que l'autre. Il n'y a pas de but, pas de sens, pas d'arrivée. La recherche de la puissance. Si vous mangez du fruit, vous serez comme des dieux. L'amour aveugle de la patrie. Car c'est toujours un amour limité comportant son revers de haine. Et même ce que nous appelons habituellement la paix. En affirmant dans la paix, ce n'est pas la paix qu'on cherche à conserver, c'est le prestige, le profit et la commodité, ce qui est le contraire de la paix.
Voilà qui est dérangeant et inconfortable, et j'aurais envie de dire excessif, la paix et la justice.
Précisément, cela nous semble excessif. Mais d'un autre côté, les périls qui guettent le monde sont tels qu'il nous faut bien nous résoudre à un moment à nous demander si ce qui nous paraît excessif est effectivement excessif. Mais rappelez-vous mon plan. 1. Les problèmes du monde. 2. La réaction habituelle à ces problèmes. Et à ce sujet, il regrette deux réactions habituelles du côté des opprimés, que sont d'abord la servitude volontaire, en reprenant la thèse de la Boétie, et surtout l'illusion que représente la révolution, en remarquant « Pour supprimer les abus, il ne suffit pas de supprimer ceux qui abusent. Il faut bien prendre garde à ceux qui les remplaceront et se demander quelle discipline, quelle purification les aura rendus meilleurs. » Et il dénonce par ailleurs deux groupes d'oppresseurs. Et là, peut-être que vous et moi sommes directement visés. Il accuse les pharisiens, les docteurs de la loi, les neutres, les honnêtes gens vivant selon la loi. Il écrit « Le péché originel est sans proportion avec ce qu'on appelle moralité. Les plus grandes vertus le laissent substituer tout entier. Alors les vertus deviennent la force du péché. » Et il est plus virulent encore à l'encontre des chrétiens. Je cite « Ils dégradent tout, ils exploitent tout, les choses et les hommes. » Mais comment les nommerais-je, ceux-là ? Des chrétiens ? Non. Des païens ? Non, hélas. Des renégats.
Eh bien, et vous dites qu'il était chrétien ?
Absolument. Il a une profonde foi dans le Christ et il reconnaît la religion chrétienne. En parlant de l'arche qu'il a fondée, il écrit « L'ordre ne peut pas se heurter à l'Église, car il ne se place pas sur le même plan qu'elle, mais au-dessous. » Seulement, il lui apparaît que les chrétiens sont eux aussi pris par la fascination du monde et de ses sirènes. Cependant, rassurez-vous, j'en ai fini avec les aspects négatifs. Nous voilà maintenant aux portes de la troisième partie, les solutions que nous décrypterons la prochaine fois.
Merci Olivier pour cette entrée en matière. Chers auditeurs, à la semaine prochaine pour Fleur de sel et pour la suite de la présentation des quatre fléaux de Lanza del Vasto. Portez-vous bien.